Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, le réveil culturel, c'est tous les jours à 6h du matin à la radio, ou quand vous voulez, si vous êtes abonné au podcast de l'émission. Et tous les lundis, on parle de l'actualité littéraire. Et en ce lundi 9 septembre, je reçois l'écrivain Sylvain Prudhomme à l'occasion de la sortie de son roman Par les routes, édité par l'Arbalète. Également présente avec nous ce matin, Oriane Jeancourt du magazine Transfuge.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Y a-t-il un âge limite pour faire de l'autostop ? Ben non, cette question semble saugrenue parce que elle renvoie à un lointain passé. Est-ce qu'on fait encore de l'autostop aujourd'hui ? On peut se demander plutôt depuis quand ça ne se fait plus de faire de l'autostop. En tout cas, le personnage de votre dernier roman, Sylvain Prudhomme, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venu en stop ?
Non.
Bon, le personnage de votre dernier roman, Par les routes, est un autostoppeur. Il n'a d'ailleurs pas d'autre nom. Le narrateur, lui, a un nom, Sacha, un métier, écrivain, et puis même un passé avec l'autostoppeur, c'était son ancien ami, son ancien colocataire, son ami de jeunesse ou de fac. Quand le roman commence, Sacha, le narrateur, vient s'installer dans la ville de l'autostoppeur. Il fait la connaissance de la compagne de son ancien ami retrouvé, Marie, traductrice de l'italien au français, et de leur fils Augustin, 9 ans. L'autostoppeur continue à faire de l'autostop, ou plus exactement, ne vit que pour ça. Partir seul, par-delà les routes, s'absenter pour rencontrer d'autres vies, d'une voiture à l'autre. Marie, qui ne veut pas être la Pénélope de l'autostoppeur, va finir dans les bras de Sacha. C'est un roman sur l'amitié, sur l'amour, sur le couple, sur la filiation, le passage à l'âge adulte.
Un peu tout ça. C'est vrai que l'autostop, ça paraît d'un autre temps, un peu. Moi, j'avais envie justement de jeter un personnage comme ça, un peu Don Quichotesque, un peu décalé par rapport à l'époque, de le jeter justement dans le monde d'aujourd'hui, sur les aires d'autoroute d'aujourd'hui, dans les voitures d'aujourd'hui, et de voir un peu quel choc ça provoquait, en fait. Il est non seulement autostoppeur, mais autostoppeur de 40 ans. Donc c'est vrai que il fait ça d'une façon très différente d'un autostoppeur de 20 ans, enfin.
Mais ça se fait plus. Je veux dire, et vous le dites bien, Sylvain Prudhomme, déjà, quand il avait 20 ans, les autos qui étaient stoppées ne s'arrêtaient que pour lui demander, mais vous faites encore de l'autostop? Est-ce que ça marche?
Alors, non, c'est vrai que maintenant, il y a Blablacar, et plein de gens m'ont dit, mais pourquoi tu fais pas un livre où on parle de Blablacar plutôt que de l'autostop? Et, pour moi, c'est des choses absolument différentes le covoiturage, c'est formidable et c'est d'avenir pour la planète. Enfin, il faut absolument en faire, mais c'est pas du tout la même chose que la prise de risque n'est pas la même que l'autostop où en fait on s'abandonne au hasard, on sait pas si on arrivera un jour, on n'a aucune garantie, on sait pas sur qui on va tomber. On n'a pas de commentaires avant ou après sur l'automobiliste qui va nous prendre pour savoir qui ce sera. Et donc il y a pour moi ça dit beaucoup de choses de la vie, en fait, d'un abandon à ce que le hasard va mettre sur notre route. Et l'autostoppeur, il est autostoppeur un peu par métaphore, en fait, c'est-à-dire que c'est la figure de la disponibilité à ce qui vient.
Et pourquoi il a pas de nom, l'autostoppeur, dans votre roman, Sylvain Prudhomme?
Ça s'est imposé petit à petit à moi. Je voulais qu'il soit. Il est tout le temps. C'est un personnage qui est absent, qu'on voit revenir de temps en temps. On ne sait pas exactement ce qu'il fait quand il est absent. On voit des photos d'automobilistes qu'il envoie. Il envoie des cartes postales de noms de lieux qu'il traverse. Mais c'est ça. Il doit rester mystérieux. Il faut qu'il. C'est son absence qu'il rend omniprésent pour ceux qui sont restés, en fait. Donc il fallait pas. Je sais pas comment dire, un prénom tout de suite. Ça donne des contours presque sociologiques. C'est un indice trop fort. Moi, je voulais que ce soit l'autostoppeur, comme ça, avec sa part d'énigme.
Et l'autre énigme, c'est la ville. On sait qu'on est dans le sud-ouest. Elle n'est pas nommée, cette ville. Ou ce village, d'ailleurs. Cette petite ville ou ce village?
Petite ville. Elle s'appelle effectivement V, simplement, dans le roman. C'est-à-dire que dès qu'on nomme une ville, en fait, on se retrouve pris dans une question qui est de savoir, de décider d'en montrer un certain nombre de choses. Comment est-ce qu'on représente ce lieu, si c'est un lieu qui existe vraiment? Et là, c'était une question qui pour moi était secondaire. J'avais juste envie qu'on sache que c'était un endroit un peu un peu périphérique, un peu éloigné de Paris, avec du coup une promiscuité plus grande, une douceur aussi des rapports peut-être plus grandes. Et je voulais que ça, on puisse que chacun puisse projeter un décor. Ça m'importait peu que ce soit telle ville plutôt que telle autre, même si évidemment j'ai pensé à une ville très précise pour le décrire.
Où vous vivez aujourd'hui?
Par exemple.
Par les routes, votre roman, Sylvain Prudhomme, est très bien écrit, il est très sensible. J'ai adoré le lire cet été, mais je dois vous avouer que j'ai eu du mal à le faire aimer. Parce que, allez résumer un livre pareil, hein, c'est l'histoire de deux amis, l'un va tomber dans les bras de la femme de son meilleur copain, de celui qui fut son meilleur copain. Alors déjà, on a une réaction morale en disant, mais comment ça peut être bien ça? Comment résumez-vous votre livre à vos amis, à vos proches?
Au début, je parlais beaucoup du fait qu'il y avait ce personnage qui allait sur les routes. Je disais, c'est un livre qui essaie de raconter la France vue comme ça depuis les.
Et
petit à petit, je me suis rendu compte que quand même le vrai sujet, c'était cette relation des trois personnages. Enfin, cette question amoureuse quand même qui est au centre. Et je trouve que c'est beaucoup l'histoire de Marie, de cette femme qui est entre ces deux hommes, qui aime l'un d'abord pour sa liberté, pour son justement cette façon de cette vie aventureuse, et petit à petit elle se met à la liberté de celui qui part sans cesse commence à devenir contradictoire avec la sienne à elle de liberté. Mmh. Et elle est de plus en plus attachée à celui qui a la grande force d'être là, de rester. C'est Sacha. Et donc c'est quand même l'histoire beaucoup d'une femme qui aime un homme puis un autre homme. Je pense que c'est ça quand même le cœur du livre.
Le réveil culturel. Tufik Hakem.
Par les routes, le titre de votre roman est bien trouvé, ne serait-ce que parce que vous empruntez des routes inattendues. On vient de l'aborder, Sylvain Prudhomme. Le roman s'annonçait comme social quand on vous a déjà lu, quand on vous connaît un tout petit peu, quand on voit cet autostoppeur qui va sillonner la France des Formules 1, qui va dormir et rencontrer des gens qui dorment dans la rue, qui dorment dans leur voiture. On s'est dit, c'est un film social. Il va nous livrer la carte et le territoire de sa génération, de son point de vue, le cœur tout à gauche, mais pas du tout. Non, en fait, le vrai sujet est le faux triangle amoureux ou le triangle amical et amoureux entre Sacha, l'autostoppeur, et Marie.
Pour moi, la dimension de description du pays, du territoire,
elle est là.
Pourtant. Elle est importante aussi, mais c'est vrai que enfin, c'est pas le moteur. C'est plutôt le. Disons que
c'est plutôt le décor et pas le sujet.
Décor,
et c'est pas le sujet.
C'est le décor et en fait, en plus, ça apparaît d'une façon ça apparaît à travers le regard de l'autostoppeur qui est absent. Donc c'est très fragmentaire. Ce sont des choses. Lui, il envoie du paysage. Il raconte des choses. Et donc on a des bribes comme ça d'espace traversé. Mais tout est vu du point de vue de ceux qui restent en fait. Donc ils reçoivent comme ça de temps en temps de leur d'un personnage qui est un peu comme leur envoyé, leur explorateur. Ils reçoivent des bouts de la France comme ça. Mais j'avais envie que ça existe de cette façon en fait, à travers le prisme du regard de l'autostoppeur.
Nous étions jeunes et larges des peaux, bandits joyeux, insolents et drôles. On attendait que la mort nous frôle. On the road again, again. On the road again, again.
Ça ressemble à une chanson, votre roman, Par les routes, à Sylvain Prudhomme. Et bien sûr, on pense à cette chanson de Bernard Lavilliers. Partir sans prévenir, avec ou sans destination en tête, dormir dans les Formules 1 ou dehors, dans le froid, au pied d'un château d'eau, dormir sous la tente ou dans une voiture, manger une daube à l'improviste, raconter sa vie à des inconnus. recueillir les sentiments les plus intimes de ces centaines de conductrices et de conducteurs qu'il ne reverra sans doute jamais. C'est la vie de l'autostoppeur. On the road again, fur le bonheur du foyer douillé de peur qu'il ne s'en aille, se baigner dans des rivières glacées et à l'heure des SMS et du net, continuer à envoyer des cartes postales ou des polaroïdes par la poste. Bah, enfin, il n'est pas dans son époque, votre autostoppeur, Sylvain Prudhomme. Il est contre son époque.
Il a un côté, oui. Il a un côté récalcitrant, sans doute. Comment dire, oui, il va un peu à contre-courant de beaucoup de tendances. Une des choses aussi qui m'intéressait avec cette vie aventureuse et avec ce recours à l'autostop, c'est le fait que il est plutôt quelqu'un qui est curieux des autres, qui postule que l'étranger, l'inconnu qu'on va rencontrer, qui va, en plus, quelqu'un qui va ouvrir sa porte, la porte de sa voiture pour le laisser monter, et quelqu'un qu'a priori il a envie de rencontrer, voilà. Donc il y a quelque chose aussi d'un mouvement vers l'autre, qui est peut-être aussi, et d'un autre temps, je sais pas, par rapport, c'est vrai que notre époque, elle est, Il y a la peur, elle est beaucoup là, la peur. Tout le monde a un peu.
La peur de ne pas rencontrer les autres, de ne pas partager d'autres expériences.
Lui, il y a peut-être cette peur-là.
Et vous-même, Sylvain Prudhomme.
Bah, c'est un livre quand même là-dessus, sur la.
C'est parti de cette idée de ce roman Par les routes.
Je pense que c'est pas mal lié aussi au fait d'être depuis quelques années parfois loin de chez moi, enfin d'être beaucoup moi-même sur les routes, comme toujours, plein de gens qui, quand on écrit des livres, on s'absente beaucoup, on fait beaucoup de rencontres fortes, on a des moments forts loin de chez soi, et on se demande en même temps sans cesse si le vrai endroit, l'endroit le plus juste, la vie la plus pleine, ce serait pas d'être davantage auprès de ceux qui sont les plus proches, malgré tout, ceux qu'on aime. Les deux personnages, Sacha et l'autostoppeur, ils incarnent un peu chacun un des deux pôles de cette dualité, de ce déchirement qu'on a tous. En fait, c'est quelque chose qu'on a. Moi, je parle de moi, mais on a tous cette tentation à la fois d'une sorte d'idéal d'écouter l'instant, en fait, d'être au plus près de ce que l'impulsion du moment voudrait nous faire, et en même temps de pas faire défaut à ceux qui nous sont chers. Donc il y a ce tiraillement vous parliez de chansons, on a écouté Bernard Lavilliers. Il y a une autre chanson qui était centrale pour moi dans le livre, c'est la chanson de Leonard Cohen.
Absolument.
Le Famous Blue Raincoat, où qui est une lettre en fait à un ancien ami qui un jour a eu une histoire avec Jane, la compagne de Leonard Cohen, dans la chanson, et il l'appelle à la fois son frère et my brother et my killer, et il y a toute une théorie selon laquelle cette chanson est peut-être une adresse de Leonard Cohen à lui-même, peut-être que cet ami un peu insolent, un peu fougueux, qui avec lequel Jane a failli partir un jour, c'est peut-être que c'est seulement Leonard Cohen plus jeune, celui d'autrefois, qui était comme ça davantage que celui plus assagi d'aujourd'hui.
Sylvain Prudhomme, le narrateur de votre dernier roman, Par les routes, Sacha vous ressemble a priori, hein, parce qu'il est romancier, et il va avoir 40 ans, vous-même, vous venez d'avoir 40 ans cette année, c'est votre 7e, 8e roman. Oui, c'est ça, hein,
ouais, je pense.
Qui ressemble pas du tout à vos autres livres, hein. Ce roman est très très particulier, hein. Vous avez parlé de l'Afrique, parce que vous avez vécu là, vous avez parlé aussi de votre histoire familiale à travers ce très beau livre sur la guerre d'Algérie. On pourrait peut-être même les citer, vos livres, par exemple un livre consacré à un groupe mythique en Afrique, comme avait dit Bailly, c'était ça?
Oui, les grands sur le groupe de
l'avait dit Bailly,
c'est sur l'Algérie, voilà, vous parliez, ouais.
Sur l'Algérie, là on a l'impression que derrière ce triangle amoureux se pose quand même la question comment passer à l'âge adulte.
Je pense aussi que c'est central dans le livre, enfin cette question de grandir ou accepter que la vie est, ben je sais pas, qu'on a fait un, disons que vers 40 ans on a fait un certain nombre de choix, les choses sont, on a pris des chemins déjà, tout n'est plus, on n'est plus simplement en devenir, il y a un certain nombre de choses qui sont derrière soi, qui sont posées, on peut encore changer plein de choses, je pense que
il est angoissé, il a 40
ans,
il est angoissé.
Pas du tout, non, mais je veux dire, je sais pas, en tout cas c'est un moment de forcément, on s'interroge sur ce qu'on a posé jusque-là, en fait. Et bien sûr que c'est un livre autour de ces questions-là.
Et la littérature est très présente aussi dans ce livre. Vous pouvez même dire du mal de Philippe Roth, hein, qu'il y a des moments où on peut ne pas aimer des auteurs qu'on adore, par ailleurs.
Alors là, c'est vrai que moi, je parle beaucoup, comme Sacha est écrivain, il parle beaucoup de livres qui l'accompagnent, en fait.
Donc, Marie est traductrice, hein.
Voilà, et Marie est traductrice, en plus, exactement. Et ils sont tous les deux... Marie, elle traduit un auteur que j'aime énormément, qui s'appelle Marco Lodoli. Et Les promesses de Marco Lodoli, pour moi, c'est un livre qui m'a énormément bouleversé. Et j'ai décidé qu'elle le traduirait, tout simplement. Et comme ça, je peux parler de ce livre, en fait.
Et pourquoi ce livre vous a marqué?
Je sais pas. C'est toujours des personnages qui regardent passer la vie, qui sont comme suspendus au-dessus de la vie et qui regardent passer la vie des autres. Ils sont comme des anges un peu en dehors du temps. Et les livres de Marco Lodoli racontent toujours eux sont les témoins du passage des autres. Et ça, je crois que c'est ce que j'aime raconter, moi, toujours, la façon dont on grandit, on vit un certain nombre de choses, on a des choses qui réussissent, on réussit des choses, on en rate d'autres, et puis petit à petit, on vieillit, on passe, on meurt. Et Marco Lodoli raconte ça avec une douceur, une empathie, et en même temps, il y a la musique de la vie, quoi, que je trouve vraiment, je trouve ça magnifique.
Et Philippe Roth?
Alors Philippe Roth, moi je dis pas de mal, hein, de Philippe Roth dans ce livre-là, parce que je sais, est-ce que c'est en tout cas moi Philippe Roth, un homme par exemple, un de ses derniers livres, c'est un livre que j'aime beaucoup.
Qu'on peut traverser une crise où même son auteur favori devient encombrant, je trouvais que c'était une bonne idée. Il faut oublier les auteurs qu'on aime quand on écrit.
On est l'auteur qu'on est. Il faut essayer de faire les livres qui sont les nôtres, qu'on peut faire, et pas se laisser effectivement écraser. Ou de toute façon, on fait ce qu'on peut, hein, voilà.
Le réveil culturel. Tufik Hakem.
Nel suo posto in riva al fiume, Susan ti ha voluto accanto. E ora ascolti andar le barche, ora puoi dormirle al fianco. Sì, lo sai che lei è pazza, ma per questo sei con lei. E ti offre il tè e le arance che ha portato dalla Cina, e proprio mentre stai per dirle che non hai amore da offrirle, lei è già sulla tua onda e fa che il fiume ti risponda che da sempre siete amanti. E tu vuoi viaggiarle insieme, vuoi viaggiarle insieme ciecamente, perché sai che le hai toccato il corpo, il suo corpo perfetto con la mente. E Gesù fu un marinaio finché camminò sull'acqua e restò per molto tempo a guardare solitario dalla sua torre di legno. E poi quando fu sicuro che soltanto agli annegati fosse dato di vederlo, disse: siate marinai finché il mare libererà. E lui stesso fu spezzato, ma più umano, abbandonato nella nostra mente, lui non naufragò.
On écoute Léonard Cohen dans le dernier roman de Sylvain Prudhomme, par les routes, enfin les personnages écoutent Léonard Cohen, ou même Fabricio De André qui reprend un tube là de Léonard Cohen, comme il a repris Ferré, Brassens. Bonjour Auriane Joncourt.
Bonjour à vous deux.
Bon, ben ravi de vous retrouver en forme.
Mais oui,
pour
moi
une
aussi.
Nouvelle saison.
Alors je voulais absolument dire quand même que là d'où je viens et là où j'étais cet été, on fait de l'autostop.
Parce
que absolument, j'étais en montagne pour les randonneurs dans le Jura, dans les Alpes, on fait de l'autostop. Et l'été, on fait beaucoup d'autostop.
À n'importe quel âge, ça passe.
Et je reconnais qu'ils sont un peu plus jeunes que 40 ans, mais...
Par les routes, donc, de Sylvain Prudhomme est édité chez L'Arbalète. C'est notre coup de cœur. Et on va continuer avec les coups de cœur du magazine Transfuge et avec vous, Auriane Joncourt.
Alors, écoutez, les coups de cœur français, puisque vous savez qu'à Transfuge, nous suivons la littérature française et étrangère avec la même passion. Mais en français, j'ai beaucoup aimé le roman d'Olivia Rosenthal.
Éloge des bâtards, c'est chez Vertical.
Oui. Alors, Olivia Rosenthal, bon, c'est quelqu'un qu'on suit depuis longtemps. Et elle a cet art assez exceptionnel de se réinventer à chacun de ses livres. À chaque fois, elle nous surprend. À chaque fois, on se dit, tiens, elle est en train d'emprunter cette voix, et non, elle va complètement ailleurs. Et Éloge des bâtards ne faillit pas à la règle, puisque Éloge des bâtards, c'est une sorte de conte, un conte choral, puisqu'ils sont 9-10 voix, tous des bâtards, tout est dit dans le titre, c'est-à-dire des orphelins devenus adultes, qu'on découvre réunis dans une ville, peut-être Paris, sans doute Paris dans 20, 30, 40 ans, on est dans une sorte de conte fantastique, de science-fiction, la ville est en train de se désagréger, donc on est dans des lieux, des sortes de no man's land, dans des lieux, parfois des parcs, parfois sous des ponts, parfois au bord des autoroutes. Et donc, ces gens qui se connaissent mal, eh bien, se retrouvent dans une sorte de groupe et racontent leur histoire. C'est ça que je trouve très beau, et c'est un peu aussi le cas de votre personnage, Sylvain Prudhomme, c'est-à-dire qu'ils accomplissent ensemble cet acte gratuit, ces inconnus, de raconter leur histoire. Et chacun raconte son histoire. Alors, l'un vient, par exemple, d'Algérie, l'autre est né en France, l'autre est d'origine juive allemande, enfin, ils ont tous des histoires différentes, l'un vient de la bourgeoisie, l'autre est prolétaire, enfin, c'est vraiment des histoires absolument différentes, mais ils ont tous en commun d'être, de se nommer, de se revendiquer comme des bâtards. C'est-à-dire que ce sont ou des véritables orphelins, elle a des pages où elle décrit la DAS, c'est assez bouleversant, ou ce sont des gens qui n'ont pas connu leur père, ou ce sont des gens qui ont été exilés, par exemple, cet enfant d'Algérie, que les parents ont abandonné, mais l'ont-ils abandonné, ou ont-ils été arrêtés, ou ont-ils dû partir, on ne sait pas, mais en tout cas cet enfant qui se retrouvait à 8 ans dans un hôtel à Marseille tout seul, et qui a dû construire sa vie en ne sachant pas pourquoi ses parents ne sont jamais revenus le chercher. Vous voyez, il y a toutes sortes d'histoires comme ça. On est dans un univers très enfantin, un peu à la Tom Sawyer, avec ces figures de gens qui ont dû se construire, parfois dans des situations extrêmement difficiles, avec des beaux-pères violents, mais qui ont dû s'inventer une identité. Et ça, je trouve que ces personnages, ces voix, puisque donc c'est un roman à 10 voix, c'est extrêmement puissant, et ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça dans la littérature française.
Éloge des bâtards d'Olivia Rosenthal, c'est chez Vertical. Et là, on passe à un autre coup de cœur de Dorian Jeancourt de Transfuge, c'est le dernier roman de Luc Lang, La Tentation, chez Stock.
Oui, alors là, on est dans un roman, je dirais, plus classique. Vous parliez de Philippe Roth, c'est un peu un roman, ça pourrait être Philippe Roth à la française, puisqu'on est face à un homme de 50 ans, un homme de pouvoir, un homme installé, un grand médecin. Et le livre commence, il est chasseur. Il vit près de Lyon, donc il est dans les montagnes. Il fait face à un cerf, c'est donc un chasseur de gros bestiaux, comme ça. Pardon pour mes mots, je ne suis pas une experte de la chasse. Et donc il fait face à un cerf, et pour la première fois de sa vie, il n'arrive pas à le tuer. Et donc il va le blesser, et ensuite il va faire cette chose invraisemblable, il va lui tirer dessus, puis il va le soigner. Et puis il va. Et ça, c'est cette très longue scène d'ouverture qui va expliquer l'état d'esprit dans lequel est plongé cet homme qui a entre 50 et 60 ans, qui voit la mort arriver, qui se sent d'une certaine manière plongé dans une forme d'impuissance, qui est le vieillissement, qui est aussi l'incompréhension face au monde qui l'entoure, qu'il a aussi un problème avec sa femme. Qui le quitte, qui revient parce que c'est une mystique. Et voilà, et donc c'est un très beau portrait d'homme au troisième temps de sa vie, si je puis dire.
Charles Dantzling, le dictionnaire égoïste de la littérature mondiale, qui paraît chez Grasset, fait partie aussi de vos coups de cœur, Oriane Jeancourt.
Oui, alors ça c'est un essai. Charles Dantzig, vous savez, a l'art de transmettre ses goûts littéraires. Il l'a fait pour la littérature française avec beaucoup de virtuosité. Et bien là, il le fait dans ce livre monstre qu'il a pris, je crois, plus de 12-13 ans à écrire, où il raconte toute la littérature qu'il aime, la littérature étrangère. Donc, ça va de la littérature antique à la littérature américaine. Il n'hésite pas à égratigner aussi. Il fait ça toujours aussi avec beaucoup d'humour. Il égratigne Hemingway. Il dit... il fait une relecture très personnelle de Shakespeare, il dit son avis sur Ovid, enfin voilà. C'est une merveille pour plonger
le
dans la littérature.
Le dictionnaire égoïste de la littérature mondiale qui paraît chez Grasset de Charles Dancing, La tentation de Luc Lang chez Stock, et puis Éloge des bâtards chez Vertical d'Olivia Rosenthal. Peut-être un premier roman très rapidement, parce qu'il y a eu de très bons premiers romans sortis cette année.
Il y a de très bons premiers romans, on consacre un article, et il y en a un que j'ai beaucoup aimé, de Lou Rui Fang, chez Actes Sud, qui s'appelle L'imprudence, et qui est l'autoportrait d'une jeune femme en quête de ses origines au Vietnam. C'est très très bien écrit, c'est très fin.
On retrouve bien sûr vos coups de cœur à la page du Réveil culturel sur franceculture.fr, et puis bien sûr, Par les routes de Sylvain Prudhomme, mon invité ce matin aux éditions L'Arbalète chez Gallimard. Merci d'être venu. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la sélection? Est-ce que ça vous donne envie de lire tous ces livres? D'autant plus que la plupart des auteurs, vous avez dû les rencontrer. Si ça se trouve, vous les connaissez, Sylvain Prudhomme.
Moi, j'ai très envie de lire le livre d'Olivia Rosenthal et celui de Luc Lang aussi qui me... Oui, ça fait très envie, là, la description.
Merci Oriane, merci Sylvain Prudhomme.
Le Réveil culturel de Tofik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.